Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis donc David Rosset, le pasteur de cette église. Et puis, effectivement, on a commencé une petite série, vous n'en êtes pas rendu compte forcément dimanche dernier, sur « il y a beaucoup » ou « il y a trop », avec un point d'exclamation, un point d'interrogation. Et puis, j'ai mis comme sous-titre « liberté totale ». J'ai été interpellé par les rencontres que je fais avec beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, puis aussi des rencontres plus générales dans la rue. Si je demande à quelqu'un comment il va, assez fréquemment, la réponse c'est « ah oui, il y a beaucoup, ces temps-là, c'est chargé, c'est presque un peu trop ». Puis j'y demande « mais qu'est-ce qu'il y a ?»« Ouais, ben il y a ci, il y a ça, ça s'accumule, et puis… » On continue la discussion, et puis à la fin de la discussion, il y a vraiment cette impression, effectivement, qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies, peut-être même un peu trop, c'est la question qu'on va se poser, et puis de savoir comment est-ce qu'on arrive à gérer tout ça. Puis je me suis dit qu'en début d'année, où ça reprend à fond, je dois dire que particulièrement cette semaine, au niveau statistique, c'était assez bon dans les réponses que j'obtenais. Le « il y a beaucoup », il est sorti 9 fois sur 10. Non, ce n'était pas scientifique, mais il est sorti souvent, parce qu'on se relance dans ce qu'on a, dans nos projets, dans nos différentes activités, et ce « il y a beaucoup » ressort souvent. Alors non seulement ce constat peut être interpellant, puis on peut peut-être un peu s'en amuser, mais ce n'est pas si léger que ça, en fait, comme sujet. Parce que ce « il y a beaucoup », ce « il y a trop » occasionne aussi, puis ça, je m'en rends compte aussi dans ma vie de pasteur, occasionne aussi de la souffrance. Ça peut être une source de souffrance, ça peut être une source de remise en question. Parce que ce « trop », ce « beaucoup » devient difficile à appréhender, devient difficile à gérer. Et puis là, peut-être que la parole de Dieu a quelque chose à nous dire. Et puis peut-être que nous pouvons nous laisser nourrir par cette parole aujourd'hui. Et pour illustrer, je vous invite à regarder cette vidéo. J'ai remarqué cette semaine qu'on était encore dans le temps de Noël. Alors je me suis dit que c'était pas trop mauvais de vous passer encore cette vidéo qui illustre à mon avis bien ce sujet « il y a beaucoup ou il y a trop ». Elle est l'œuvre de Joël Bussy qui est à la Ligue pour la lecture de la Bible et qui s'occupe aussi d'un ministère qui s'appelle CABES avec les réfugiés. Et puis il illustre souvent les grands moments de la vie chrétienne. Et puis là, c'est le cas pour Noël. C'est son nom de scène, joli. C'est pas un constat nouveau que le joli fait là. C'est pas un constat nouveau que je fais aussi devant vous ce matin. Le constat même plutôt connu. Et puis, on a encore une difficulté supplémentaire, c'est qu'on connaît même la manière de faire pour faire mieux. On a appris dimanche passé que bon, c'était bien de pouvoir vivre des temps de sabbat, des temps de repos en Dieu. Et puis, je crois que Francesco nous a exhortés à trouver ces temps de repos. Et puis, je crois que le fait de savoir, des fois, ça nous rajoute peut-être encore une difficulté supplémentaire. Parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours un problème. On a toujours ce problème de prendre ce temps. On a toujours un problème parce que ces ballons nous emprisonnent et puis nous compriment la tête, presque, d'une certaine façon, tellement il y en a. Alors, je me suis un peu posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on pouvait être pris dans ces telles tensions? Puis, une des raisons, d'après moi, qui est assez unique à notre époque, c'est qu'actuellement, on bénéficie, et je ne sais pas si vous en rendez compte toujours, d'une liberté absolument totale. C'est une période assez unique dans l'histoire, à ce niveau-là, où absolument tout est à notre disposition. Je peux simplement aller sur mon téléphone et, par exemple, je peux obtenir tout ce que je veux au niveau matériel. Enfin, ça dépend de la carte de crédit aussi, mais globalement, je peux toucher mon téléphone et obtenir quelque chose qui me vient de Chine, des États-Unis ou d'ailleurs. Ça, c'est complètement nouveau. Il y a 30 ans même, ce n'était absolument pas possible. De même, au niveau des possibilités professionnelles ou des possibilités de formation, c'est impressionnant le catalogue de formation, de perfectionnement qu'on peut trouver, qu'on peut avoir. Il y a aussi une liberté de choix qui est absolument impressionnante. Et ça donne un peu le vertige parce qu'on est face à tout cela et on se demande peut-être comment on veut gérer parce qu'on doit aussi faire ses choix pour être un bon père de famille, être un bon époux, comme on l'a vu, même être un bon garagiste, parce qu'il y a quand même les problèmes assez standards de la vie quotidienne. Et puis, on met tous ces éléments-là ensemble, je suis bien placé pour le savoir, on met tous ces éléments-là ensemble, et puis on se demande comment est-ce qu'on va arriver à faire la part des choses. Sans compter toute l'énergie qu'on dépense par exemple, si on veut s'acheter une nouvelle voiture, c'est toujours concerné, de se dire quelle est la voiture qu'on choisit. Puis là aussi, le nombre d'options différentes sur une même voiture. Vous avez déjà regardé ce que c'est? C'est hallucinant, c'est hallucinant. Il y en a des pages, et on peut comparer et puis essayer de se prendre la tête, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne énormément. On prend une énergie phénoménale dans nos vies pour comparer ces différentes possibilités, puis on voit tous ces ballons qui sont là. Vous avez certainement vos propres ballons, j'ai les miens. Une autre hypothèse, on peut même, ça c'est une illustration, j'ai oublié que je l'avais mise, mais elle est pas mal quand même. Juste pour acheter des pâtes au supermarché, c'est... Allez, amis italiens, les pâtes au supermarché, c'est tout un art de choisir la bonne. Savoir si ce sera Barilla, si savoir ce sera De Cecco, si savoir si ce sera bio, pas bio, ou blé complet, ou blé pas complet, sans gluten, avec gluten. La totale. On a une liberté totale qui peut nous prendre la tête, qui peut nous faire que ces ballons prennent tout l'espace. Puis, la deuxième raison que j'observe aussi... Il est beau, hein, cet ogre. C'est celui que j'ai appelé l'ogre du moi. L'ogre du moi qui a toujours besoin d'être nourri, puis c'est bien aussi que je puisse penser à moi, puis penser à mes besoins, puis c'est bien que je commence à m'écouter, et puis c'est bien que je puisse faire ça parce que c'est important pour moi, pour me nourrir. Pour... Et cet ogre du moi, on se rend compte assez... pas vite, mais en fait, on se rend compte, si on prend un peu du recul, que cet ogre, il est insatiable. Et puis, j'aime bien ce titre de ce livre pour enfants, parce que c'est « Au secours, un ogre glouton ». Parce qu'effectivement, quand on commence à se rendre compte de la capacité d'ingurgitation de cet ogre du moi qui n'est jamais satisfait, on a envie de crier « Au secours, il y a un ogre glouton que j'arrive jamais à satisfaire ». Au secours, que dois-je faire? Parce que je dois encore rajouter une semaine de vacances de plus, un voyage de plus quelque part, une sortie quelque part là, sans fin, un week-end là, un week-end à gauche, à droite. Peut-être ça peut être au niveau matériel. Mais on se rend compte qu'on est aussi pris à ce niveau-là dans une espèce d'ogre du moi. Il n'en aura jamais assez parce que cet ogre, il est glouton, c'est-à-dire qu'il a toujours faim. Il ne peut pas s'arrêter de manger. Ce n'est pas une critique, c'est qu'on est comme ça. On est comme ça et je crois qu'on est tous à la même à ce niveau-là. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, il n'y en a pas un qui est pire que l'autre. On est tous là avec ces caractéristiques qui font partie de notre nature humaine. On a besoin de satisfaire ce moi qui peut devenir un ogre insatiable. Alors là, je dirais que je m'arrête à la partie facile toujours, parce que c'est un peu la partie analytique. Ça, c'est ce qu'on aime bien faire quand on est dans un esprit rationnel en Suisse, c'est qu'on a un problème, on analyse les causes, puis on pense qu'on a fait tout le travail. Mais en fait, on n'est qu'à la moitié du chemin, et puis je dirais même qu'on a la partie facile qui a été effectuée là. Il nous manque quelle peut être la réponse. Et en tant que croyant, la réponse, on essaye de la trouver dans la parole de Dieu qu'on appelle la Bible, et puis notamment dans les paroles que Jésus nous transmet. Ce Jésus qui est notre maître, notre sauveur et notre guide aussi, celui qui nous inspire. Et pour nous ce matin, j'ai choisi de méditer ce texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, et on va commencer à partir du verset 25. Jean 6, verset 25. « Ils trouvèrent Jésus de l'autre côté du lac et lui dirent, « Rabbi ou maître, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez non pas parce que vous avez saisi le sens des signes extraordinaires que j'accomplis, mais parce que vous avez dû manger du pain à votre faim. » Ce dialogue se situe juste après un miracle extraordinaire de Jésus où il était en train d'enseigner une foule pendant toute la journée. À la fin de la journée, cette foule a commencé à avoir faim. Il se demandait comment est-ce que ils allaient nourrir une foule de 5000 personnes. Et là, un petit garçon arrive avec 5 pains et 2 poissons. Et Jésus multiplie ces 5 pains et ces 2 poissons. Et c'est les mêmes personnes qui reviennent vers lui, un peu intriguées par ce miracle, parce que Jésus, entre-temps, s'est éloigné pour reprendre des forces, reprendre des temps de repos. Et puis, il revient vers eux et il continue le dialogue. Et voilà ce qu'il en est. Ils sont intrigués par ce signe qu'ils ne comprennent pas. Et voilà ce que Jésus leur répond. Travaillez, non pas pour la nourriture qui est périssable, mais travaillez pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera, parce que Dieu le Père a mis sur lui la marque de son autorité. Ils lui demandèrent, mais que devons-nous faire pour accomplir les œuvres voulues par Dieu ? Bonne question. Et Jésus leur répondit, l'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ils lui dirent, mais alors quel signe peux-tu nous faire pour que nous te croyions ? Pas perdu le nord, hein ? Quelle œuvre vas-tu accomplir devant nous ? Par exemple, nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, et comme le dit l'Écriture, il leur a donné à manger du pain venu du ciel. Et Jésus leur répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain des cieux, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain des cieux. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend des cieux et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Amen. Comme vous le savez certainement, on a commencé un cours alpha dans nos locaux et en collaboration avec l'église du Cèdre. On a la joie d'être une petite vingtaine de participants au total mardi soir. Et puis le premier cours alpha porte sur le thème « Quel sens donner à ma vie ?» ou bien « Est-ce que la vie a un sens ?» Alors vous imaginez un peu le vertige pour préparer une petite soirée comme ça, quoi. « Quel sens a la vie ?» Assez simple hein, comme question. Et puis, je n'avais pas beaucoup de temps pour préparer ça, parce que c'était la reprise, la rentrée. Donc, je me suis demandé ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais relire tous mes livres de philosophie ? Est-ce que j'allais rechercher du côté des grands théologiens ? Est-ce que j'allais parler de ma perception, donner mon témoignage ? Puis, je me suis rendu compte que ça faisait partie des GMS de la vie de pasteur, c'est-à-dire des grands moments de solitude de la vie de pasteur, où on se demande qu'est-ce qu'on va faire de cette page blanche qui est devant nous. Puis ensuite, je suis allé voir les vidéos officielles du cours Alpha. Je me suis dit peut-être que là, j'allais trouver une inspiration. Elles étaient très bien faites, percutantes. En plus, Nicky Gumbel, là, le fondateur des cours Alpha, il est très beau, je trouve. Il parle très bien. Puis je me suis dit qu'il n'y avait qu'à passer la vidéo. Mais ce n'était toujours pas ça, parce qu'on avait décidé que c'était nous qui devions parler en tant que personne, donc de transmettre aussi ce que nous avions compris de la part de Dieu. Et puis, j'étais toujours pas satisfait. Et finalement, on tombe sur ces clins d'œil de la part de Dieu qui ne sont pas commandés, mais qui viennent comme ça. Je tombe sur une méditation, à la suite d'une méditation qu'on a pu vivre en conseil, sur un site chrétien. Et cette méditation, pendant 10 minutes, un quart d'heure, elle tourne simplement autour de cette notion de Jésus, pain de vie. Puis je vous assure que de passer 10 minutes, un quart d'heure sur une simple notion comme celle-là, ça interpelle et ça permet de faire descendre cette réalité. Et là, ça m'a fait tilt. Que dire de plus en tant que pasteur par rapport au sens que les chrétiens peuvent donner à leur vie ? Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre que cette réalité que Jésus est mon pain de vie ? Qu'est-ce que je peux transmettre d'autre à ces personnes qui sont en recherche au niveau de la foi, que se nourrir du pain de vie, c'est ce qui donne un sens à ma vie. C'est ce qui donne un sens à la vie du croyant. C'est ce qui donne un sens, mais aussi une texture, un corps, une assise. Comme le pain nourrit mon corps physique, la foi nourrit ma vie tout court. Et c'est ce que nous dit Jésus dans ce texte. Et c'est pourquoi Jésus répond de cette manière quand même étonnante. Quand les personnes lui demandent « Mais qu'est-il derrière ce signe ?» il demande à ces personnes, non pas simplement de recevoir ce pain de vie, mais de travailler, non pas pour la nourriture qui est périssable, mais pour la nourriture qui dure. Et ensuite, Jésus leur répond « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Ces réponses de Jésus m'impliquent directement dans le sens que je vais donner à ma vie. Je suis impliqué, nous sommes impliqués pleinement, car nous pouvons exercer notre capacité d'action, notre capacité de réflexion pour accueillir ce pain de vie chaque jour dans nos vies. Pour accueillir ce qui vient de Dieu, et ce n'est pas automatique, ça demande un travail de notre part. Ce n'est pas en claquant des doigts que Jésus va tout faire à notre place. Jésus considère qu'il y a besoin d'avoir un travail de notre partie. Ce n'est pas pour limiter la grâce ou pour se dire « ça ne vient pas vraiment de Dieu », mais il y a aussi une manière d'être face au monde et face à Dieu, où on peut travailler sur cette faculté d'accueil du pain de vie. Est-ce que je travaille pour être disponible à accueillir ce pain de vie? Et à cela, il est intéressant de noter que la foule ou les disciples répondent finalement de manière assez différente. Jésus les encourage à travailler, d'être en œuvre, en action. Et qu'est-ce qu'il pose comme question à Jésus lorsqu'il leur dit ça? Mais alors, quel signe est-ce que tu peux nous faire voir pour que nous te croyions? Quelle œuvre vas-tu, toi, accomplir? Et puis ensuite, il se réfère à la manne dans le désert. C'est intéressant, ces intuitions de la foule, parce que Jésus les encourage à travailler et à œuvrer au niveau de leur foi. Et la foule répond, en fait, nous, on attend que ce soit toi qui nous donne des signes pour que l'on puisse se lancer sur ce chemin-là. Souvent, on a les questions de la foule. Ça ne veut pas dire qu'on manque de foi, mais ça veut dire que souvent, on se dit que Dieu va faire le travail à notre place. Souvent, on se dit que Dieu va tout faire sans que nous, nous soyons finalement impliqués. Et la foi, c'est rien d'autre, c'est très petit, mais c'est une implication, comme on vient de le chanter, totale de notre être. Et ça, c'est pas rien. C'est très petit, mais c'est énorme à la fois. On ne peut pas simplement déléguer cette responsabilité à Dieu qui, lui, va faire des signes et puis nourrir, finalement, je dirais, l'ogre du moi spirituel. L'ogre du moi spirituel qui a toujours besoin de plus parce que, finalement, il n'est pas vraiment impliqué. Lorsque le moi croyant est rempli de foi, ce moi spirituel, il n'a pas toujours besoin d'être nourri par les signes qui viennent constamment de la part de Dieu. Et dans l'évangile de Jean, c'est frappant parce que tout le long de l'évangile, il y a ce dialogue de sourd un peu entre Jésus et la foule, où la foule préfère rester à distance, finalement en contrôle, sans s'engager pleinement dans ce que Jésus demande, dans ce travail de la foi, dans l'œuvre de la foi. Et du coup, il reste finalement toujours à distance et d'une certaine façon, un peu frustré parce qu'il ne pénètre pas le cœur de la relation avec Dieu. Et puis, si on prend le parallèle avec la manne dans le désert, c'est assez intéressant. Parce que quelles sont les caractéristiques de la manne? On pourrait peut-être retrouver ces caractéristiques du moi insatiable. Parce qu'il y a toujours eu des problèmes avec cette manne. Au début, c'était la grande joie, signe de Dieu, alléluia. Tout le monde était content dans le désert, ils avaient enfin à manger. Mais très vite, il y a eu des parasitages. Très vite, le but a été de faire des réserves. C'est-à-dire que comme on n'est pas sûr que la manne va se retrouver le lendemain, on en prend un peu plus le soir d'avant, on le met dans un coin, il n'y a pas de frigo, et puis on se dit, là, comme ça, si jamais il ne devait pas y en avoir demain, je continue de maîtriser la situation, et puis je fais mes réserves. Ce besoin de sécurité, de nouveau, il peut faire partie de cet ogre du moi qui est insatiable. On peut toujours en avoir besoin, et ce sera insatiable. Le deuxième problème avec la manne, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez relu ces histoires il y a quelque temps, c'est qu'elle n'est pas assez bonne. Ils se plaignent du goût. C'est un peu toujours la même chose, comme ça, là, ce n'est pas très, très appétissant, d'autant plus qu'ils n'avaient pas encore l'aromate. Donc, ils ne pouvaient pas avoir quelque chose de satisfaisant au niveau du goût, et ils se lassent. Et le pire dans cette histoire, c'est que Dieu les entend parce qu'il envoie ensuite les cailles. Mais de nouveau, on retombe de ce côté du moi insatiable, où, là c'est peut-être la notion de plaisir, où jamais on aura assez de plaisir, jamais on aura assez de satisfaction. Et tout ça, c'est un peu ces attentes passives des signes de Dieu. on est dans une forme d'attitude de donnant-donnant. Ou alors, on peut même glisser, dans le pire des cas, sur une relation de type de consommation, où on consomme les biens que Dieu peut nous donner. Et Jésus répond de manière assez interpellante, parce qu'il continue d'accentuer l'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il ne disqualifie pas ses réponses, il n'est pas en train de remettre dans les cordes la foule qui lui pose ses questions, et il ne disqualifie pas non plus ses besoins matériels et essentiels à la vie des hommes. Il a voulu nourrir cette foule de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Donc il les a nourris physiquement. Il s'est occupé de ces besoins-là. Il ne les a pas laissés pour dire ce qui vous contentera, ce sera que le pain de vie et que les besoins spirituels. Il a décidé de nourrir physiquement ces besoins-là. Mais il propose d'aller plus loin. Il propose de se nourrir de la relation au Père comme étant un degré finalement supplémentaire pour trouver la satisfaction pleine et totale dans notre vie. Et cela ne doit pas nous conduire à une forme de passivité, mais une forme d'action où on peut se positionner en tant que croyant à travailler à l'œuvre de notre foi. Et ça ne disqualifie pas, je le répète, la grâce. On pourra encore discuter, je ne vais pas me lancer là-dessus. Mais il y a, à un moment donné, une part de travail qui est attendue de notre part. Et là, on retrouve ce côté fascinant qu'on a pu développer là, lors du culte du 29 décembre, où on reconnaît que Dieu rentre dans notre vie. Et Dieu nous reconnaît comme ses enfants. Il y a cette rencontre qui se produit de manière assez extraordinaire. Tous les dimanches, nous avons l'occasion de nous placer devant cette table. Et tous les dimanches, nous partageons ce pain. Je vous rassure tout de suite, c'est un pain qui est tout à fait standard. On l'a acheté ce matin chez le boulanger. Il n'a rien de spécial à part qu'il est sans gluten, comme ça, ça s'est fait. Mais en dehors de ça, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce pain-là. On peut le prendre et puis se dire que ça va simplement un tout petit peu nourrir notre corps, parce qu'on ne prend généralement pas des trop gros morceaux, on en laisse aux autres. Mais ce matin, ce que je vous propose, et de manière peut-être un peu plus sérieuse, c'est de refaire, ou de faire peut-être pour la première fois, un choix. De se dire, est-ce que dans ma vie et dans le sens que je veux donner à ma vie, je vais me laisser griser ou peut-être griller par la liberté sans fin qui m'est offerte? Ou est-ce que je décide de venir à la table de la foi et de me nourrir de ce pain de vie, comme d'une source qui ne va jamais tarir? Est-ce que ce matin, je décide de continuer de nourrir l'ogre du moi dans une quête là aussi sans fin, et qui là aussi peut être assez grisante, ou décider de prendre résolument ce pain de vie dans une disponibilité sans fin à l'œuvre de l'Esprit dans ma vie? Et je crois qu'au début de cette année, au seuil de cette année qui s'ouvre devant nous et qui est pleine de belles choses, j'espère, de faire et de refaire le choix de prendre ce pain de vie a tout son sens. Parce que c'est la seule réponse qu'on peut donner à ce trop. C'est la seule réponse qu'on peut donner à ce « il y a beaucoup », c'est de dire qu'on va se nourrir et placer notre énergie ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire tout ce qu'on a envie de faire, ça veut dire que simplement dans l'ordre des choses, on va d'abord se nourrir de ce pain de vie. Faire et refaire le choix de prendre consciemment ce pain de vie parce que c'est là que nous voulons nous laisser nourrir. Et en plus, c'est un geste que nous allons répéter souvent. Parce qu'on a l'habitude, et c'est une bonne habitude, de pouvoir le vivre chaque dimanche. Et je pense que ce dimanche-ci, aujourd'hui, nous pourrons donner ce signe pour nos vies en prenant ce pain, de dire « Oui, Seigneur, en 2020, je décide de me nourrir de toi, d'accueillir ce pain de vie dans ma vie, parce que c'est lui qui va me construire, c'est lui qui va donner un sens à ce que je vais faire, et c'est lui qui va donner une assise à mes actions. Alors, ça peut être qu'un simple bout de pain, ça peut être qu'un simple bout de pain, comme on en achète tous les jours chez le boulanger, ou ça peut être ce matin, lorsque vous allez l'avoir devant vous, ce pain de vie irremplaçable. Ce pain de vie qui nous est donné, mais quand même que je décide de manger et de prendre dans cette direction-là. Alors, on va prendre le temps de vivre ce temps de scène. Ne soyez pas stressés parce qu'on va être un tout petit nombre pour vous servir. Mais prenez le temps de vous positionner. Et puis, lorsque ce pain arrivera devant vous, résolument de se dire, je le prends comme pain de vie. Si vous n'êtes pas prêt, vous dites simplement, je passe ou j'attends un moment où je le mange, mais ce n'est pas encore le bon moment. C'est un moment entre Dieu et vous, entre Dieu et moi, car moi aussi je vais partager ce repas. Et cette décision appartient à chaque personne individuellement. Et finalement, c'est un moment entre Dieu et nous, car nous le prenons tous ensemble, en communauté. Et je crois que cette grâce de pouvoir prendre ce pain tous ensemble nous donne aussi une force de la vie de tous les jours et donne aussi un sens. Parce que le sens de la vie de foi n'est pas un sens strictement individuel, c'est un sens que l'on partage, le nombre que l'on est ce matin, mais encore de manière beaucoup plus imposante, avec tous les chrétiens du monde qui ont partagé ce repas ou qu'ils partageront aujourd'hui. Alors je nous invite à la prière pour accueillir l'Esprit de Dieu. Je demanderai aux deux personnes à qui j'ai demandé de venir me rejoindre. Notre Père, merci parce que tu es notre pain de vie. Merci parce que tu nous donnes cette vie en abondance et effectivement dans cette vie-là, il y a beaucoup et on s'en réjouit. Il y a beaucoup de ta grâce. Seigneur, bénis ce moment que nous allons vivre maintenant. Nous pouvons nous positionner ou nous repositionner dans notre vie pour lui donner un sens avec toi et non pas sans toi, pour nous laisser nourrir par toi et par ton Saint-Esprit dans nos vies. Alors bénis-nous, fais-nous du bien et que ton Esprit nous visite. Amen.